Célèbre et pourtant méconnu, personnage iconique mais également mal compris, le naturaliste Charles Darwin a bouleversé la vision du vivant avec son œuvre, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, qui est sans doute le livre majeur pour les sciences et dans lequel il propose sa théorie sur l'origine et l'évolution des espèces. La Cité des sciences à Paris propose en ce moment l'exposition Darwin l'original pour un voyage dans la pensée singulière du scientifique. Et c'est le dossier de la tête au carré dans un instant avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé la TAC.
Mathieu Vidard.
Darwin l'original, une exposition donc à voir en ce moment à la Cité des sciences à Paris. Mes invités pour en parler dans quelques minutes, Éric Lapie et Guillaume Lecointre, commissaire scientifique tous les deux de l'expo. Bonjour.
Bonjour.
Éric Lapie, est-ce qu'on peut dire de Charles Darwin qu'il est un personnage populaire auprès du public comme peut l'être un Albert Einstein, et malgré le fait que leurs théories respectives soient complexes à comprendre?
Populaire, je ne sais pas. Connu, sûrement. Pas forcément pour de bonnes raisons, malheureusement. Mm-hmm. Peut-être un peu moins connu du public français. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire cette exposition à la Cité des sciences et de l'industrie. Mais malgré tout, hein, à son époque, c'était probablement le scientifique le plus connu.
Ouais.
Celui dont les œuvres ont le plus d'impact directement sur ses contemporains.
Vous avez hésité, je crois, un moment entre Einstein justement et Darwin.
Entre Einstein et Darwin, ouais. Oui. En fait, c'est une exposition qui s'inscrit après une exposition sur Léonard de Vinci, qui lui était extrêmement célèbre et très populaire. Effectivement, on a hésité entre Einstein et Darwin, entre la barbe et la moustache.
C'est ça. Et vous avez été audacieux, alors, finalement, en faisant le choix de Darwin.
On a été audacieux, et puis, d'une certaine manière, on a pensé que l'œuvre de Darwin était plus attractive.
Ouais. Guillaume Lecointre, qu'est-ce qui a été le plus révolutionnaire, au fond, dans la pensée de Charles Darwin? S'il fallait retenir une chose.
Une chose, c'est que ce qui nous apparaît régulier à grande échelle, la forme du corps, le fait que les bébés ressemblent à leurs parents, eh bien ça, le régulier à grande échelle provient du bazar à petite échelle.
C'est ça, c'est le fruit d'un long cheminement avec beaucoup
d'un long cimetière.
Oh là là.
Là oui, parce que ça part dans tous les sens à petite échelle, hein, les variations se produisent dans tous les sens.
La théorie de l'évolution, deux points, un long cimetière.
Oui, il y a de la mort effectivement, mais n'émerge de ces essais-erreurs, entre guillemets, essais-erreurs bien sûr, n'émerge que ce qui est propice à la reproduction du semblable. Et donc ce qui nous paraît régulier vient en fait, il n'y a pas de donneur d'ordre, il n'y a pas d'instruction.
C'est le hasard.
Voilà, le hasard est à la source des régularités, ce qui n'est pas intuitif pour nous. Hein.
C'est vrai. On va en reparler avec vous dans un instant. Je suis sûr qu'il y aura des questions nombreuses des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré.
La Tête au Carré sur France Inter.
Darwin l'original, c'est donc une exposition à voir en ce moment à la Cité des sciences à Paris. C'est le dossier de La Tête au Carré pour comprendre en quoi la pensée de Darwin a révolutionné notre rapport au vivant et à l'origine des espèces. Mes invités donc pour en parler, Éric Lapie, vous êtes commissaire d'exposition à la Cité des sciences et de l'industrie, et puis Guillaume Lecointre, zoologiste, directeur du département systématique et évolution, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes également commissaire scientifique de l'exposition, avec les questions et les messages qui arrivent sur le site de La Tête au Carré. Éric Lapie, comment on conçoit une exposition autour d'un personnage scientifique aussi emblématique que Charles Darwin, autour d'une pensée aussi qui n'est pas toujours simple à faire comprendre au plus grand nombre?
On commence par se fixer des objectifs, parce que c'est important, puis ça permet de mesurer si on les a atteints ou pas. Et un de nos premiers objectifs, qui transparaît dans le titre de l'exposition Darwin l'original, c'était de revenir aux sources. Mm-hmm. C'est-à-dire de revenir au texte de Darwin, à son œuvre telle qu'elle est, en faisant fi d'une certaine manière de tout un tas d'interprétations qui ont couru depuis la parution de ses ouvrages jusqu'à aujourd'hui. Et donc le travail commence par lire ou relire Darwin, essentiellement, par identifier dans cette œuvre qui est quand même gigantesque et qui traite de sujets extrêmement variés, des moments, des ouvrages importants, et de construire un scénario d'exposition qui va s'appuyer à la fois sur les moments de sa vie qui sont importants, et puis sur ces moments de son œuvre qui sont importants, voire même fondamentaux pour l'histoire des sciences.
Et ce titre alors, Darwin, l'original, elle se situe où, son originalité justement?
Alors son originalité, c'est pas tant le personnage lui-même qui était un bon bourgeois victorien, avec une vie bien rangée, puisque sa vie, on va dire, elle se résume en deux grandes parties, un voyage d'abord, très important, riche, et puis après,
l'analyse de ses données.
Voilà, d'une part l'analyse de ses données, puis il s'installe à la campagne au sud de Londres, et puis il travaille, essentiellement. Donc son originalité vient plutôt de sa pensée. Même s'il faut matiner un peu cette cette assertion, à savoir que même si sa pensée est très originale, Darwin s'inscrit dans une tradition de pensée évolutive, dans une longue histoire, y compris familiale, sur cette question.
Ouais, Guillaume Lecointe, l'idée aussi de l'exposition, c'est de montrer comment vit aussi sa théorie aujourd'hui et toute la modernité au fond de sa pensée.
Oui, c'est ça. L'exposition exprime de la manière la plus claire possible qu'on puisse le faire dans une exposition, les points cruciaux de sa pensée et la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. En fait, si on avait pris en compte complètement la lecture du texte, sans les lunettes du XXe siècle, parce que comme l'a dit Eric, il y a eu des lectures de Darwin ensuite, on a lu Darwin avec certaines lunettes au XXe siècle, on y reviendra peut-être. Mmh. Effectivement, oui, la biologie d'aujourd'hui, au XXIe siècle, est en train de changer, parce que finalement, on relit Darwin sans les lunettes du XXe siècle. Ouais. Et il y a des choses à en tirer, justement.
Alors, c'est-à-dire, est-ce que la biologie aujourd'hui, aussi avec les technologies dont on dispose, confirme aussi la théorie de l'évolution ?
C'est cela. C'est-à-dire qu'en fait, on a les moyens aujourd'hui de voir génétiquement, par exemple, la variation entre les cellules de votre propre corps. Mmh. Et si on fait fi, si on met de côté un petit peu la métaphore du programme, vous savez, le fait que votre corps soit régulier, au XXe siècle, on a importé cette idée que bah il y a un programme. Si vous ressemblez à vos parents, c'est qu'il y a un programme qui fait que vous ressemblez à vos parents. Mm-hmm. Ce fameux programme génétique, aujourd'hui, on le laisse un peu de côté. On sait qu'on peut interpréter la régularité du corps au cours du temps. On peut l'interpréter en termes de variation-sélection à l'intérieur du corps. Nos cellules ne sont pas identiques, elles varient dans tous les sens. Et justement, à une échelle plus grande, à l'échelle de la population des cellules, la moyenne qui va en sortir, elle est à peu près régulière. Il y a un micro-phénomène de sélection, ouais, à l'intérieur du corps. Ça révolutionne le cancer, par exemple.
Alors justement, je vais vous le dire, quand on a vraiment une dégradation, une anarchie au niveau des cellules, là aussi, on voit une manifestation de l'évolution dans une autre échelle, en tout cas, une autre manifestation.
Disons que le principe selon lequel la sélection naturelle procure d'abord de la régularité avant de procurer du changement, ce changement de perspective permet de regarder le cancer, mmh, sous l'angle de la sélection naturelle.
On peut faire de la médecine évolutionniste, oui, au fond, tout à fait. C'est une discipline qui existe
depuis 15 ans, au moins une bonne quinzaine d'années dans le monde anglo-saxon. Il y a une médecine darwinienne et aujourd'hui, on est en train de commencer à l'enseigner en France, effectivement.
Ah oui, donc on peut aller voir son médecin évolutionniste, Eric Lapie, par exemple.
Ça, je ne sais pas s'il y a des plaques avec cette mention, mais en tout cas, effectivement, c'est une discipline qui se développe majoritairement dans les pays anglo-saxons, mais ça ne devrait pas tarder chez nous.
Oui. Alors Charles Darwin, encore un mot sur son parcours avant de rentrer dans le cœur aussi de sa théorie. Vous le disiez tout à l'heure, milieu bourgeois, bourgeoisie anglaise. Le milieu social, il a été aussi absolument prépondérant dans le fait qu'il ait eu le temps aussi, les moyens et le temps de faire ce travail.
Dans le fait qu'il ait eu le temps de faire ce travail, mais même dans le fait qu'il ait eu les moyens d'entreprendre le voyage, hein, puisque le voyage à bord du Beagle, c'était, mmh, assez frais, en grande partie. Donc effectivement, le milieu, en l'occurrence, est prépondérant, oui. C'est un milieu qui l'a mis en contact également avec la communauté académique et scientifique de ses études. Donc tout ça a participé, effectivement, à ce qu'il puisse ensuite produire son œuvre.
Oui. Le Beagle, évidemment, effectivement, voyage fondateur, départ décembre 1831 jusqu'à octobre 1936, ça rigolait pas, hein, 5 années. 1836, ouais, 5 années de voyage à bord du Beagle. Et il n'a que 22 ans, justement, Charles Darwin, lorsqu'il prend la mer.
Le père de Darwin voyait mal l'intérêt du voyage sur le Beagle. Il le percevait comme une perte de temps doublée d'une aventure dangereuse. Il préférait voir son fils étudier la théologie afin de devenir pasteur, carrière naturelle dans une famille de la haute bourgeoisie du temps de la reine Victoria. Quand Darwin embarque, les sévères mises en garde de son père résonnent encore dans ses oreilles.
Ce voyage sera une entreprise sans intérêt, qui jettera une ombre sur ta réputation d'homme d'église. Tu ne pourras plus t'installer dans une vie paisible et tu devras changer de profession.
C'est le capitaine de l'expédition, Robert Fitzroy, qui devait radicalement changer la vie du jeune dilettante. Le capitaine était lui-même un personnage fascinant et hors du commun. Quand le Beagle lève l'ancre, il compte 70 personnes à son bord. C'est une lourde responsabilité pour un jeune capitaine.
Alors, qu'est-ce qu'il part chercher exactement, Éric Lapie, à l'époque, quand il embarque justement au 19e siècle sur ce Beagle? Est-ce qu'il se dit, tiens, je vais faire des observations pour proposer une théorie révolutionnaire après sur l'évolution des espèces?
Non, absolument pas. Il part en tant que naturaliste et compagnon du capitaine dont on vient de parler, le capitaine Fitzroy. Et effectivement, au fur et à mesure, il va faire ce travail de naturaliste qui va consister à collecter un certain nombre de spécimens en mer et à terre, puisqu'il va aussi profiter de ce voyage pour faire quelques excursions à terre. Certaines ont été décisives dans la récolte de faits qui lui serviront ensuite. Darwin également avait acquis des compétences de conservation des spécimens, donc ce qui lui permettait de, voilà, par exemple, de récolter des oiseaux, de pouvoir les conserver.
On voit une petite cage d'ailleurs dans l'expo, qui reprend celle qui accompagnait nombreuses Darwin sur le Beagle.
C'est un peu une sorte de petit clin d'œil pour montrer avec quoi pouvait travailler Darwin pour récolter ces oiseaux. Mais il y a un élément important sur lequel on insiste dans l'exposition, c'est qu'au-delà de ce travail de terrain, on va dire, il y a un élément important qui est les lectures que Darwin a pu faire à l'intérieur du Beagle pendant le voyage, puisque le Beagle était extrêmement fourni en ouvrages divers et variés, d'histoire naturelle, mais pas seulement, et Darwin les a quasiment tous lus.
Ouais. Alors Guillaume Lecoin, son travail, c'est quoi? C'est d'observer et puis de noter, écrire énormément ses observations.
Oui, consigner, faire du terrain, conserver, ramener tout ça. vous faites allusion là au travail sur le bateau ou après?
Sur le bateau aussi, qu'il avait le temps d'écrire sur place.
Oui, d'écrire sur place, de lire et de mûrir sa pensée. D'ailleurs, peu de temps après qu'il soit rentré, il avait déjà dans un carnet finalement les grandes lignes de ce qui adviendra plus tard, en 1859 seulement, c'est-à-dire son grand argument. Le livre qu'il publie en 1859 est un résumé d'une œuvre qu'il comptait faire gigantesque, agrémentée de faits, parce que les faits, ceux qu'il ramène, ne lui suffisent pas. Oui. Quand il sera rentré, il lui faudra collecter beaucoup plus de faits. Il veut que sa grande idée, il veut que sa théorie soit irréprochable, qu'elle soit étayée.
Et il va prendre le temps de le faire.
Il va prendre le temps de le faire, et ce sont les scientifiques de l'époque qui le somment de publier, en fait. Oui.
Au risque de se faire dépasser par un autre individu.
Oui, alors là, on est rendu en 1858, effectivement. Il est alerté par Lyell, je crois, c'est bien Lyell, oui, que quelqu'un en train de faire du terrain en Asie du Sud-Est a envoyé un courrier à la Société linnéenne de Londres où il propose un mécanisme de modification des populations qui ressemble fort au mécanisme auquel Darwin est en train de penser depuis fort longtemps. Et donc, il est proposé de faire une lecture commune le 1er juillet 1858 devant la Société linnéenne de Londres. Ouais. Une lecture commune des deux théories, celle de Alfred Russel Wallace, donc celui qui est loin, et celle de Charles Darwin, celui qui travaille sur la question depuis fort longtemps. Ouais. Voilà. Ils ont traité la question en gentleman, en fait.
C'est ça. Mais c'est Darwin qui laissera la plus grande trace. Pour quelle raison, d'ailleurs, par rapport à Wallace?
Peut-être que sa réputation était d'une part plus établie, et puis surtout que son ouvrage était plus conséquent que le mémoire de Wallace. Mais Wallace, on l'a pas oublié. On pense souvent que Wallace a été oublié. L'année dernière, je crois que c'était l'année Wallace. Donc on essaye toujours de faire croire qu'il était oublié. Oui. Faut rappeler quand même que la médaille qui couronne le travail des chercheurs en sciences de l'évolution s'appelle la médaille Darwin-Wallace depuis fort longtemps. Donc c'est des choses qui sont très connues.
Est-ce que ça aurait un sens, ou est-ce que ça a un sens encore, puisqu'elles existent, de mener de grandes expéditions sur le terrain aujourd'hui, Guillaume Lecointre?
Oh, bien sûr, on est loin d'avoir tout découvert. On a cru à un moment, dans le deuxième tiers, après, dans les années 50 ou 60, on s'est mis à croire qu'on avait tout découvert, que la zoologie, la botanique, peut-être pas la paléontologie, mais en tout cas ces sciences de la systématique, ces sciences qui disent qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, auraient tout découvert. Or depuis la Convention de Rio, qui est 1992, le thème de la biodiversité est revenu sur le devant de la scène, et c'est là qu'on a commencé à repenser ou à écouter cette idée que la diversité du vivant est loin d'avoir été explorer. En fait, quand on envoie un chalut, par exemple, au fond du Pacifique Ouest, eh bien, la moitié de ce qu'on remonte en masse comme organisme ne sont pas décrits par la science.
C'est ça.
Quand on secoue un arbre tropical sur certaines îles du Pacifique, ou même encore en forêt tropicale sud-américaine, quand on secoue un cocotier, si je peux le dire comme ça, enfin quand on fait une fumigation d'arbre, eh bien les organismes qui tombent de cet arbre, là aussi on en découvre encore de manière considérable. Donc non, on est loin d'avoir tout découvert. En fait, on a découvert que 10% peut-être de la biodiversité existante.
Mes amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée, sur quelle montagne, sur quelle jetée? Aux amis perdus de vue, loin du cœur, loin du corps, à la vie, à la mort et au changement de décor, à la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Avez-vous pu faire d'enfants, de divorces et d'enterrements? La mémoire c'est comme du vent, oh qui tâche sur les dents. Faites-vous encore quelques rêves, oh, vous êtes-vous endormi dessus? Êtes-vous content de votre sort? Se verra-t-on au bar des sports? Oh, celui perdu de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à l'amour et au changement de décor, à la vie, à l'amour et au monde qui s'évapore, à la vie, à l'amour, peut-être bien qu'on s'adore encore, peut-être bien qu'on s'adore encore. Peut-être bien qu'on s'adore encore.
Darwin et son assistant Sims Covington passent quelque temps à errer dans la forêt en collectant des spécimens. La collection restait la grande passion de Darwin.
Darwin collectionnait tout ce qu'il pouvait. Il s'intéressait surtout à l'entomologie, aux papillons, coléoptères et petits invertébrés. Il a aussi réussi à réunir une remarquable collection de mammifères plus grands. Et il a tenté de collecter un maximum de plantes. Il a également inclus de nombreux spécimens géologiques, des pierres et des minéraux, afin de confirmer les théories géologiques qu'il soutenait. Sa collection était très vaste et éclectique.
Extrait du documentaire Le Grand Voyage de Charles Darwin, la théorie de l'évolution, et puis l'exposition donc dont nous parlons aujourd'hui, Darwin, l'original à la Cité des Sciences. Vous avez jusqu'au mois de juillet prochain.
31 juillet.
Pour aller la découvrir, Éric Lapie, vous êtes avec nous, avec Guillaume Lecointre. On entendait parler de géologie dans cet extrait. Guillaume Lecointre, dans sa pratique justement, Darwin met au point un guide méthodologique, c'est ça, autour de la géologie, pour travailler, observer.
En tout cas,
Éric Lapie.
Darwin a commencé plutôt comme géologue, et une majorité de ses observations pendant son voyage du Beagle avait trait à la géologie. Mmh. Tout ça renforcé par la lecture d'un ouvrage extrêmement important dont il amène le premier volume pendant le voyage du Beagle, qui est Les Principes de géologie de Charles Lyell, qui est un livre où Lyell nous explique en gros que les paysages que nous observons aujourd'hui, les êtres vivants que nous observons aujourd'hui, sont le résultat d'un lent et long processus, et non pas d'une série de catastrophes telles qu'on le pensait à l'époque. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va appuyer, ça va donner un contexte à ce que Darwin va ensuite développer pour nous expliquer la diversité du vivant aujourd'hui. Donc, effectivement, il récolte et observe des faits géologiques et, comme il était dit dans le documentaire dont vous avez passé un extrait, tout un tas d'échantillons d'êtres vivants.
Ce long processus, Guillaume Lecointre, il y a quand même des exceptions où parfois, justement, on assiste à des phénomènes très rapides, non ?
En géologie, toujours ? Ouais.
Pas forcément, non, dans le monde vivant.
En général. Oui, Darwin a une pensée de la transformation régulière, lente. c'est comme ça qu'il va penser l'accumulation des changements dans les lignages généalogiques.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que l'évolution procède graduellement. Et c'est le seul aspect d'ailleurs de son travail qui sera récusé plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dans le lignage généalogique, on peut avoir du changement qui varie dans sa vitesse. On peut avoir des stases où la forme ne change pas trop et pendant des millions d'années. Et puis tout à coup, la forme se met à changer rapidement. Donc on a vraiment des irrégularités dans la vitesse d'évolution telle qu'on le pense aujourd'hui. Ouais. Lui, il pensait plutôt la régularité de la vitesse d'évolution. C'est le seul point véritablement sur lequel on peut dire que Darwin a fait une hypothèse dont il n'avait pas besoin. Il s'est trompé là-dessus, mais pour le reste, effectivement, il est confirmé.
C'est du solide. Ouais. Viron demande, est-ce que la découverte du support de l'information génétique, l'ADN, a fait plus avancer la connaissance de l'évolution que les théories de Darwin elles-mêmes?
Mon opinion de chercheur là-dessus, c'est non. En fait, Darwin propose le mécanisme de changement des espèces et de régularité des espèces, les deux d'ailleurs. La sélection naturelle explique à la fois la régularité d'une espèce et, sur des temps plus longs, son changement. Ce mécanisme, par le moyen de la sélection naturelle, pour le mettre en place, il n'a pas besoin de connaître les règles de l'hérédité. Darwin ne connaît pas plus que Lamarck, 50 ans avant, qu'est-ce qui fait que les caractères se transmettent d'une génération à l'autre. Il lui suffit de constater que ces caractères varient dans tous les sens. Les variations n'apparaissent pas nécessairement aux besoins de celui qui la porte. Mmh. Il peut y avoir des variations néfastes à la reproduction, des variations favorables, fortuitement acquises. En fait, il y a un jeu d'essais-erreurs considérable. Il faut multiplier le nombre d'individus dans les populations par le nombre de générations. Donc le nombre d'essais est... essais entre guillemets, hein. Le nombre d'essais est considérable et forcément la plus petite variation favorable, aussi improbable soit-elle, va finir par survenir. Si elle est héritable, eh bien celui qui la porte va faire plus de petits et c'est ce qui explique en quelque sorte pourquoi c'est à peu près toujours la même combinaison qui se maintient dans les populations. Pour faire ce constat, il y a de la variation, il y a de la transmission. Cette transmission se laisse même travaillé par les horticulteurs et les éleveurs. Hein. Il y a une sélection artificielle que Darwin étudie beaucoup. Eh bien, pour mettre tout ça en place, vous n'avez pas besoin de connaître le détail des règles de l'hérédité. Alors certes, c'est important d'avoir découvert les gènes au XXe siècle, je vous l'accorde, d'avoir inventé le concept de gène en 1909, et puis d'avoir découvert le support de l'hérédité, le support matériel de l'hérédité génétique en 1953, hein, le fameux ADN. Mais... on va dire qu'on précise, on précise le cadre théorique que Darwin avait déjà construit. Donc, à mes yeux, le cadre théorique est plus important que les petits modules qu'on a apportés ensuite ponctuellement.
Au cœur de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle, c'est le hasard aussi, hein, cette notion de hasard qui est absolument essentielle.
Cette notion de hasard est fondamentale, hein, même pour Darwin, ouais. Pour qui le hasard n'a pas tout à fait le même sens qu'on lui prête aujourd'hui.
Parce c'est que ça qui est très contre-intuitif, hein, comme le disait Guillaume Lecointre tout à l'heure.
Cette question du hasard, pour quelqu'un qui pense un peu à ces questions, effectivement, c'est totalement contre-intuitif. C'est même pour certains peu rassurant.
1859, donc, l'origine des espèces. Le titre en entier, d'ailleurs, Guillaume Lecointre.
L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées au cours de l'existence.
Voilà, ça c'est le titre entier.
Des races favorisées dans la lutte pour l'existence.
Ouais. Pardon. Et alors ce sous-titre, il est important évidemment.
Hein. Oui, il est important parce qu'en fait, qu'est-ce que nous avons appris à l'école, nous au XXe siècle et au XXIe siècle, nous apprenons que la sélection naturelle explique le changement des espèces. Mmh. C'est ce qu'on apprend. Or, quand je dis cela, je fais comme si les espèces existaient vraiment, comme si elles étaient là dehors, concrètement, voyez. Si elles sont là dehors, elles sont données à voir, et donc le rôle de la sélection naturelle, c'est d'expliquer comment ce qui est donné à voir change. Or, le sous-titre dont on vient de parler, ou la préservation des races favorisées au cours de la lutte pour l'existence, on parle de préservation. On ne parle pas de changement ni d'évolution, on ne parle pas de transformation ni même de transmutation. En fait, le changement n'est pas dans le sous-titre du livre. Il n'est même pas dans le titre du livre. Ce qui fait qu'il y a des gens qui lisent aujourd'hui l'origine des espèces et ils disent « mais je ne trouve pas l'origine des espèces dans ce livre » parce qu'ils s'attendent à trouver la cause d'un, en premier, on va dire, la cause d'un changement qui va créer l'espèce. Or, la pensée de Darwin, elle est la suivante. L'espèce, elle est conventionnelle, c'est une boîte dans ma tête. Ce qui existe dans la nature, ce sont des individus et leurs variations. Et la sélection naturelle, elle va être le facteur qui va trier à peu près dans un temps court, bien sûr, toujours à peu près la même combinaison de caractères qui sont ensemble par hasard, hein, avec tous les essais-erreurs qu'on a vus tout à l'heure, elle va trier une combinaison à peu près régulière d'organismes constitués de telle manière qu'ils peuvent faire des petits. Et du coup, la sélection naturelle explique une régularité à partir de laquelle nos yeux et notre cerveau vont créer des espèces pour parler. Parce que pourquoi fait-on des espèces? C'est parce qu'il faut bien donner un nom à des formes. On ne peut pas donner un prénom à chaque mouche, on ne peut pas donner un prénom à chaque pâquerette. Et donc, pour Darwin, la sélection naturelle explique d'abord une régularité, alors d'où le sous-titre, ou la préservation des races favorisées. Préservation, ça veut dire qu'on a une régularité. Et puis dans un second temps, dans un temps plus long, effectivement, puisque le milieu environnant est ce crible qui va trier les variants, si le milieu change, oui, alors effectivement, la donne va changer, la régularité va changer, donc l'espèce va changer. Donc ce qu'on a oublié de voir au XXe siècle, c'est que la sélection naturelle expliquait autant la régularité que le changement. Ça va tout changer au XXIe, puisque si la sélection naturelle est pourvoyeuse de régularité, elle va pouvoir entrer dans le corps humain comme pourvoyeuse de régularité du corps, alors qu'au XXe siècle, elle ne pouvait pas rentrer dans le corps humain, puisque dans le corps humain, on cherchait à expliquer la régularité, et qu'elle n'était pas pourvoyeuse de régularité, elle était pourvoyeuse de changement. Donc qu'est-ce qu'on a fait rentrer pour expliquer la régularité du corps humain au XXe siècle? On a fait rentrer le programme. Le programme a remplacé, si je peux le dire, le programme génétique.
Oui, c'est ça, j'allais vous demander de préciser. Oui, si vous
le programme génétique, programme. La fameuse notion de programme génétique dans les années 50, 60, est venue dans le corps humain pour en expliquer la régularité, alors qu'on aurait pu éventuellement prendre la sélection naturelle, mais on n'avait pas lu complètement ce que nous offrait Darwin de ce point de vue-là.
Éric Lapis, ce que vient de nous décrire Guillaume Lecointre, est-ce que vous parvenez à l'expliquer aussi à votre public?
Alors,
on voit quand même toute la complexité,
tout à fait. Alors, l'exposition, elle est majoritairement historique et avec une volonté forte de ne pas être ni anachronique, ni trop diachronique, à savoir qu'on n'essaye pas de comparer terme à terme ce qu'a dit Darwin et ce qu'on dit aujourd'hui. Par contre, c'est des choses qu'on évoque dans une des parties de l'exposition qui là fait le point sur effectivement les avancées très contemporaines et ce retour à Darwin dans la biologie et dans l'anthropologie d'aujourd'hui.
Allez, dernière partie de ce dossier dans un instant.
13th of June, 2010. Whiskey at noon, and an unfamiliar man lying in your bed. Or was it my turning head? Thinking it was you. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time. And then you let the light shine.
Thank you. Where Did You Go? C'est le premier extrait du nouvel album de Keren Ann, qui sera d'ailleurs, notez-le, l'invité principal ce soir du nouveau rendez-vous de Laurent Goumard à 21h sur Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Darwin l'original, donc c'est à voir en ce moment à la Cité des Sciences avec nos invités pour en parler, Éric Lapie et Guillaume Lecointre, commissaire scientifique de l'exposition. Vincent nous envoie ce message. La durée très longue du voyage de Darwin me fait poser cette question de l'évolution de nos manières de travailler, dit Vincent. Maintenant que ton processus de travail privilégie les circuits de la récompense immédiate ainsi que les tâches fragmentées, l'émergence d'une pensée à la puissance similaire à celle de Darwin reste-t-elle possible? C'est une belle question ça, Guillaume Lecointre.
Voilà, une belle question de sociologie des sciences, oui. Quand on considère la puissance théorique du travail de Darwin, il travaille effectivement pas seulement comme un naturaliste, mais surtout comme un naturaliste théoricien. Il a le temps de mûrir sa réflexion et de la confronter. On l'envie, Darwin, quand on voit comment il travaille. Il travaille chez lui, certes, il administre son domaine, mais il a aussi un soutien logistique autour de lui. Enfin, bon, on l'envie, c'est vrai, aujourd'hui.
Il a le temps d'aller se promener le matin dans son parc avec ses chiens, voilà, tous les matins avant de bosser.
Pour nos auditeurs, il faut rappeler que les scientifiques d'aujourd'hui ont des laboratoires qui majoritairement ont été depuis 30 ans privés de leur soutien à la fois administratif et logistique. Enfin, c'est très difficile d'avoir, je ne dis pas auprès de quelle institution, peu importe, mais c'est très difficile d'avoir du personnel dit de support administratif, support gestionnaire et même pour faire le ménage. Enfin, bon,
Et tout ça, ça ne participe pas justement à l'émergence de pensées riches et variées.
Parce qu'en fait, les tâches qui ne sont plus faites dans les laboratoires sont faites par les scientifiques qui ont de plus en plus de tâches administratives lourdes. Il faut qu'ils s'évaluent entre eux, il faut qu'ils demandent de l'argent tout le temps. Certes, Darwin était rentier, l'argent arrivait tout seul, donc bien sûr, c'est enviable. Mais bon, oui, effectivement, il y a le mot fragmentation qui a été cité. Le travail est de plus en plus fragmenté, on passe de plus en plus de temps à évaluer ses pairs et à se faire évaluer. Et
donc moins de Darwin à l'horizon.
Moins de Darwin à l'horizon, une plus grande fragmentation du travail, le cerveau a-t-il le temps de faire la colligation, de rendre une cohérence théorique sur un sujet. On travaille aussi un peu plus en équipe, en interaction plus étroite. Hein. Peut-être que Darwin était évidemment en lien par courrier avec énormément de scientifiques de son époque, mais la notion d'équipe aujourd'hui est beaucoup plus forte et resserrée.
Donc, il travaillait avec son fils d'ailleurs, hein, Éric Lapie. On voit d'ailleurs dans l'expo, j'ai mis l'observation de la croissance d'un arbre.
Oui, il a travaillé avec son fils Francis beaucoup sur les plantes. Ouais. Et effectivement, ils ont sorti un livre que moi j'adore qui s'appelle La capacité de mouvement chez les plantes, où ils ont fait preuve là d'une intelligence pour mettre en place des dispositifs d'observation du mouvement des plantes.
En fixant des petits fils aux branches.
Alors effectivement, ils prenaient des plantes qu'ils isolaient bien sûr du vent, parce que sinon il est clair qu'elles auraient bougé les plantes, en mettant un petit point de référence sur la plante, un point fixe sur le pot, et en mesurant en reportant sur une vitre qui était soit devant, soit au-dessus de la plante, le point qui correspond à la projection de l'axe qui passe entre le point mobile et le point fixe. Et comme ça, ils traçaient des diagrammes en notant également à certains intervalles à quelle heure la plante en était là, enfin en tout cas, à quelle heure le point mobile en était là.
Un an après la publication de L'Origine des Espèces, violent débat à la session annuelle de l'Association britannique pour l'avancement des sciences qui s'était tenue à Oxford en juin 1860.
Au début de l'été 1860, se tint la session annuelle de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, qui est la dernière légendaire.
Oui, c'est le fameux débat d'Oxford.
Mon livre sur l'origine des espèces était au centre du débat.
La parole est à Monseigneur Wilberforce.
Le livre de Charles Darwin n'a d'autre but que celui d'amener le lecteur à sa propre conclusion. Conclusion que voici, tous les êtres vivants, l'homme y compris, proviendraient d'une forme primordiale unique. Cette conclusion est indubitablement ahurissante.
Vous avez mal lu la citation, monseigneur. L'homme n'y est pas mentionné. Je me permets d'ailleurs de vous lire le texte intégral que j'ai sous les yeux. Il faut admettre que tous les êtres organisés qui ont jamais vécu peuvent descendre d'une forme primordiale unique.
Le texte parle des êtres organisés, soit. Il nous faudra donc décider si l'homme en est un.
Alors Guillaume Lecointre, cet évêque-là, Monsieur Samuel Wilberforce, c'est lui en fait qui déforme les propos de Darwin en affirmant que l'homme descend du singe. Darwin ne l'a jamais écrit en réalité. Hein.
Pas à la date où Wilberforce le dit en tout cas, oui. La bonne formule, puisqu'on reprend toujours cette formule comme icône darwinienne, la bonne formule selon le schéma de Darwin en fait, parce qu'il y a un schéma théorique de la généalogie du vivant, qui est d'ailleurs le deuxième pilier de sa théorie. Le premier pilier, c'est la sélection naturelle dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est ce schéma théorique qui explique que tous les êtres vivants d'aujourd'hui sont contemporains. Il n'y a pas de sommet, il n'y a pas d'apex, il n'y a pas de perfection, dans le sens où nous sommes tous les descendants, effectivement, d'une grande généalogie qui, si on recule vers le passé, finit par se converger, se rejoindre
à
un point ancestral, hein, voilà.
Ouais. Donc c'est toute l'idée de la filiation, c'est qui ça, est essentielle, deuxième pilier au fond de la pensée darwinienne. Ouais,
ce descent with modification qu'en anglais, c'est-à-dire la filiation des êtres et leur modification qui l'accompagne, ça explique pourquoi nous partageons des traits communs aujourd'hui entre espèces qui évidemment ne nous reproduisons pas entre nous, c'est-à-dire nous avons un pavillon de l'oreille là qui dépasse de la tête, hein. Le chien a le pavillon de l'oreille, le chat aussi, ce pavillon de l'oreille, il y a un moment où quand on redescend dans la généalogie, il a été légué d'un ancêtre commun. Alors oui, effectivement, nous sommes cousins des singes.
Mais on ne descend pas directement du singe.
Alors, l'ancêtre commun au singe et à nous était un singe, donc oui, quelque part on descend du singe, mais si on va jusqu'au bout du programme classificatoire de Darwin, nous sommes des singes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, cet ancêtre commun, entre nous et le chimpanzé, il était un singe, et si on est cohérent dans la classification, on doit qualifier de singe tout ce qui descend de cet ancêtre, nous y compris. Donc la formule « l'homme descend du singe » n'est pas complète. On devrait dire, si on était rigoureux, l'homme est un singe, si le singe est défini par la fusion de l'os frontal droit et l'os frontal gauche, ce qui est un caractère de singe, un seul frontal là devant le front, l'homme là, ce frontal unique, nous sommes des singes. Le chien, lui, il a une suture au milieu, il n'a pas un seul frontal, il en a deux, donc ce n'est pas un singe.
Ouais. Et si on remonte encore plus loin, on va jusqu'à la première cellule.
On remonte comme ça, la généalogie
du vivant,
c'est notre
origine commune. Hein.
Et effectivement, c'est ce qui est dit dans le documentaire ici, il y a une ascendance commune à tout le vivant.
Éric Lapie, François demande jusqu'à quel point l'Église catholique s'est-elle opposée aux théories de Darwin?
L'Église catholique, comme l'ensemble des églises chrétiennes à l'époque de Darwin, s'y sont opposées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Les croyants, dans leur majorité, arrivent quand même à concilier les théories de Darwin et leur foi.
Mais il y a quand même quelques irréductibles.
Il y a toujours des
contre lesquels il faut se battre encore.
Des irréductibles. Mais voilà, ce qu'on peut leur dire, c'est quand même qu'ils professent des idées qui datent de quelques années.
Guillaume Lecointre.
C'est intéressant d'ailleurs parce que je connais peu, à ma connaissance, je connais peu ou pas de théorie scientifique contre laquelle il y a une permanence de l'opposition politique et culturelle. C'est pas une opposition scientifique. Ça fait longtemps que les scientifiques ont admis le truc, il n'y a pas de problème. Ça vient de l'extérieur, ça vient des sociétés, la plupart du temps, des cultures monothéistes, disons-le, qui effectivement, dans leur frange conservatrice, refusent que soit enseigné à l'école publique, car la cible, ce sont les écoles, hein, c'est pas les sciences.
La laïcité.
Voilà, c'est ça. Ils refusent que soit enseigné à l'école publique l'évolution biologique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que disent les sciences à travers l'évolution biologique, les sciences prennent simplement leur autonomie dans un discours sur l'origine de l'homme, l'origine des espèces et l'origine du vivant dans son ensemble. Et là, pour le coup, ces religions-là, celles-là spécifiquement, entendaient avoir le monopole de ce discours et voilà les sciences qui disent autre chose de manière autonome. Pour eux, ça n'est pas tolérable.
Ouais.
Pas tous, bien sûr, mais je parle des franges conservatrices, là, de chacun des trois grands monothéismes. Ça n'est pas tolérable de voir les sciences avoir leur mot à dire. Voilà. Donc, la bataille, c'est l'école. Hein,
voilà. D'où l'importance aussi de faire des expos. Hein, ça sert à ça. Éric Lapie, et d'aller par exemple à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris jusqu'au mois de juillet, fin juillet, pour voir Darwin, l'original. Alors, des ouvrages également. Il faut signaler d'ailleurs, Guillaume Lecointre, que vous avez reçu un prix hier, le prix La Science se livre, pour votre livre L'évolution, question d'actualité. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission.
Tout à fait. Les éditeurs sont le Muséum national d'histoire naturelle et les éditions Kouaé. Ouais. Et le prix est délivré par le Conseil général des Hauts-de-Seine.
Voilà, et c'est tombé hier. Donc félicitations à vous également. Merci. Dans la bibliographie Descendons-nous de Darwin, que vous signez aux Petites Pommes du Savoir, avec Margot, Muriel Gargaud aux éditions matériologiques L'évolution de l'univers aux sociétés. Et puis, évidemment, autour de l'exposition, Le monde de Darwin aux éditions de La Martinière, ainsi que chez Actes Sud Junior, Charles Darwin, une révolution. Voilà, toute la bibliographie est sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci.